Capstan Talk, le podcast de Capstan Avocat, un podcast dédié au droit social et aux relations sociales, des rencontres animées par Arnaud Martineau.
Alors, nous voilà réunis pour un nouveau podcast, alors sur un format peut-être un peu particulier, car il s'agit d'évoquer avec vous Stéphane Le Plaideur, vous êtes avocat associé au cabinet Capstan Avocat au bureau de Toulouse, évoquer, alors j'allais dire deux arrêts de la Cour de cassation réunis en assemblée plénière, mais peut-être plus précisément l'un des deux arrêts de la Cour de cassation qui ont fait beaucoup de bruit, ces deux arrêts, puisque ça donnait lieu à une publicité assez incroyable par la Cour de cassation, et notamment je dis publicité incroyable, puisque ça a donné lieu à une audience filmée du 24 novembre dernier et qu'on retrouve d'ailleurs sur le site de la Cour de cassation, cour-de-cassation.fr. Alors, pour évoquer cet arrêt qui porte sur un sujet qui est essentiel dans le contentieux et au-delà d'ailleurs du contentieux, qui est celui de la recevabilité de la preuve et plus précisément recevabilité de la preuve déloyale. Donc, pour en parler, Stéphane, bonjour Stéphane, merci.
Bonjour Arnaud.
Merci d'être avec nous et je vais d'emblée vous poser une première question pour bien comprendre l'évolution de cette jurisprudence. C'est simplement nous rappeler ce qui se passait avant ces arrêts d'assemblée plénière.
Alors jusqu'à ces deux arrêts du 22 décembre dernier, la Cour de cassation opérait une distinction entre le mode de preuve déloyal et le mode de preuve illicite. S'agissant du mode de preuve déloyal, le juge du civil l'écartait systématiquement, alors que le juge pénal pouvait le retenir sous certaines conditions, parce qu'il voulait faire primer la recherche de la vérité sur l'atteinte à d'autres droits, même si, il est vrai que c'était surtout pour recueillir des preuves du particulier victime ou du particulier poursuivi, et non pour valider des pratiques d'autorité de poursuite. En revanche, pour le mode de preuve illicite, là, que ce soit les juridictions civiles ou les juridictions pénales, les deux pouvaient retenir ce mode de preuve. Simplement, elles l'appréciaient en fonction de l'intérêt, de la proportionnalité surtout, de l'atteinte à un droit. Et il y avait, jusqu'à ces deux arrêts, deux thèses en présence. Il y avait certains qui militaient pour un maintien du statu quo, avec l'idée qu'il fallait continuer pour le juge civil à écarter systématiquement le mode de preuve déloyal, avec la crainte du développement de procédés douteux et d'un sentiment d'impunité permanent, alors qu'on est dans un contexte où les outils de preuve se multiplient, sont facilités avec l'utilisation de nos smartphones notamment. Et puis l'autre crainte, c'était de se dire, on abordait là une situation de risque d'insécurité juridique, parce que le fait que le juge apprécie a posteriori le caractère indispensable et proportionné rendait quand même ce mode de preuve justement assorti de cette forte insécurité juridique. Souhaitaient faire disparaître cette distinction qui était opérée par le juge civil entre le mode de preuve déloyal et le mode de preuve illicite, parce qu'il considérait que ce n'était pas en cohérence avec les pratiques européennes. Et puis surtout, ça apportait une complexité, parce que un mode de preuve déloyal est généralement illicite, mais le mode de preuve illicite n'est pas forcément déloyal. Et c'était compliqué d'arriver à faire une telle distinction.
Tracer la frontière entre le mode de preuve illicite et le mode de preuve déloyal, c'est effectivement très compliqué, parce qu'on a des preuves qui sont à la fois illicites et déloyales, et peut-être parfois exactement pour les mêmes raisons. Alors, justement, on en arrive à cet arrêt d'assemblée plénière, et j'insiste, plutôt l'un des deux arrêts de la Cour de cassation, simplement peut-être pour rappeler qu'il s'agissait d'un licenciement pour faute et que l'employeur, pour prouver la faute du salarié, s'était appuyé sur un enregistrement clandestin, et la question toute simple qui se posait, c'était de savoir si cet enregistrement pouvait être produit comme élément de preuve. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire simplement quelle est la position de la Cour de cassation dans cet arrêt de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière?
Très clairement, l'assemblée plénière met un terme à cette distinction entre preuve illicite et preuve déloyale. Aujourd'hui, la Cour de cassation considère que le moyen de preuve déloyal peut être présenté au juge à la condition qu'il soit indispensable à l'exercice des droits du justiciable. Il faut quand même prendre en compte la notion d'atteinte et la notion d'atteinte proportionnée au but recherché. Donc, dès lors qu'il y a une atteinte disproportionnée à un autre droit fondamental, comme le respect de la vie privée, l'égalité des armes, le juge pourra alors écarter. Donc on en revient au même raisonnement que celui utilisé par le juge en matière de mode de preuve illicite.
Oui, parce que simplement peut-être rappeler qu'il ne s'agit absolument pas d'un blanc-seing qui est donné d'ailleurs à l'employeur ou au salarié en disant vous pouvez obtenir ou produire n'importe quel type de preuve qui serait une preuve illicite ou une preuve déloyale. C'est-à-dire que la Cour de cassation pose quand même deux conditions et c'est sans doute sur ces conditions-là que les juges du fond seront extrêmement attentifs. Hein, si vous souhaitez revenir sur ces deux conditions, le caractère indispensable et le caractère proportionné.
Oui, c'est fondamental parce que la notion de caractère indispensable signifie que le juge pourra toujours écarter ce mode de preuve s'il estime qu'il y avait d'autres moyens de preuve qui étaient moins attentatoires à la vie privée du salarié si le droit fondamental lié à la vie privée ou personnelle est atteint. Donc, c'est cette notion de recevabilité au travers du caractère indispensable et pas simplement nécessaire, indispensable. Et la deuxième condition, c'est l'atteinte qui devra être proportionnée au but poursuivi, alors avec la difficulté de déterminer à quel moment le juge va considérer qu'il y a une telle gravité dans l'atteinte à un autre droit fondamental que le mode de preuve déloyale doit être écarté.
Pour terminer, Stéphane, peut-être quelques conseils qui pourraient être donnés aux entreprises à partir de ces arrêts de la Cour de cassation.
Oui, quatre ou cinq préconisations ou conseils. D'abord, inciter quand même les entreprises à bien maîtriser tout ce qui relève de la parole et des actes, car aujourd'hui, avec les nouvelles technologies d'enregistrement, et pour parodier une expression populaire et connue des séries policières américaines, tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Donc il faut être vigilant. Le deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à poursuivre la contestation du mode de preuve illicite et déloyal, parce que le juge ne la retiendra que sous ces conditions qu'on a vues à l'instant. Et il faut pouvoir démontrer que si c'est un salarié qui apporte ce mode de preuve déloyal, il avait d'autres moyens de prouver un droit en utilisant des méthodes légales et loyales. Attention aussi au risque de banaliser ce mode de preuve illicite ou déloyal en se disant finalement c'est un sauf-conduit parce que c'est le juge qui sanctionnera et a posteriori. Donc on rentre là dans une zone d'insécurité juridique certaine. Et puis il faut aussi faire attention de bien distinguer la notion de mode de preuve déloyal d'autres outils pour aller rechercher des éléments de la vie personnelle. Et c'est d'ailleurs le deuxième arrêt de la Cour de cassation,
exactement,
c'est l'affaire Facebook. Il faut bien faire cette distinction entre mode de preuve déloyal et utilisation d'éléments de la vie personnelle.
Parce que si je peux me permettre, pardon, je vous coupe la parole Stéphane, mais si je peux me permettre, dans le deuxième arrêt de la Cour de cassation, toujours les arrêts du 22 décembre 2023, ce qui est intéressant, c'est que presque la Cour de cassation donne une méthode, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à s'interroger sur la licéité ou la loyauté du mode de preuve dès lors qu'il est démontré que le fait reproché se raccroche à la vie personnelle, c'est-à-dire que là, la Cour de cassation nous dit on s'arrête là. Il y a, selon sa jurisprudence traditionnelle, et je laisse de côté les exceptions, mais selon sa jurisprudence traditionnelle, il y a une sorte d'incompatibilité entre le disciplinaire et des faits qui relèvent de la vie privée, de sorte qu'il n'y a même pas à se poser la question du mode de preuve déloyal ou du mode de preuve illicite dans une telle situation. Pardon, je vous ai coupé la parole.
Oui, effectivement, et donc en dernier conseil, faire toujours attention parce que la possibilité de produire devant un juge civil un mode de preuve illicite, c'est aussi le risque de commettre une infraction et donc de devoir supporter les conséquences pénales indépendamment de ce que va en faire le juge civil et donc de poursuites pénales contre l'auteur d'un enregistrement et donc celui qui aura pour apporter la preuve d'un droit, utiliser un mode de preuve illicite.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage, Stéphane. Merci et à très bientôt.
Merci à vous, Arnaud. Au revoir.